Il est 7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin est économiste et historien.
Bonjour à vous Nicolas Bavraise.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Après Thomas Piketty et hier, on donne la parole à une autre famille de pensée chez les économistes, avec vous donc ce matin, pour tenter de comprendre les enjeux de cette réforme des retraites. D'abord, Nicolas Bavraise, sur le principe, basculer vers une réforme universelle où chaque euro cotisé offre un euro de retraite pour tout le monde, est-ce que c'est une bonne réforme ?
C'est Blaise Pascal qui disait « qui veut faire l'ange fait la bête ». Et en apparence, cette réforme est parfaite. Dans la réalité, elle est beaucoup plus compliquée parce que on a cru qu'en vendant cette idée de régime universel par points, on réglait le problème démographique, le problème financier, puisque ce système est en déséquilibre. Et en réalité, ça n'est pas le cas. Et c'est là que se creuse tout le malentendu. Donc, en 1945, c'est quand même un élément très important, on a fondé notre régime de retraite sur, il y a une dimension d'universalité, puisque tout le monde est concerné, mais sur une base professionnelle avec ses 42 régimes. Et aujourd'hui, il faut pas oublier que quand on parle, par exemple, des droits acquis ou de la continuité des contrats pour les régimes spéciaux, mais ça vaut aussi pour tous les salariés, que tout le monde a des attentes, que tout le monde a des espérances, et que, par exemple, quand on pense récupérer 140 milliards de réserves accumulées par les régimes excédentaires, ça pose aussi un vrai problème de rupture. Alors, pour les gens qui sont concernés par ces régimes excédentaires.
D'accord. Là, vous parlez notamment des avocats, on va y venir. Mais sur le fond, en finir avec les 42 régimes spéciaux, est-ce que c'est une bonne chose ?
Alors, là encore sur le principe, oui. Dans la réalité, il faut regarder les choses. Le principe d'égalité, c'est qu'on est traité de manière égale à situation égale. Si je prends des métiers comme les militaires, les policiers ou les pompiers, il est clair, par exemple, si vous êtes soldat, on comprend très bien que s'il faut aller dans le Sahel, on va pas le faire à 55 ans. Et donc, il est très clair que pour le fait d'avoir un régime spécial pour les militaires est quelque chose...
Mais ça, il restera.
Il restera. Si on passe à un système universel par points, normalement, on va faire ce qu'on fait dans un régime par points, c'est-à-dire qu'on aura des points supplémentaires si on est militaire. Mais c'est une chose d'avoir des points supplémentaires et c'est une autre d'avoir une retraite après 15 ans.
Vous écrivez que ce système, que cette réforme est illisible, injuste et inefficace. Pourquoi injuste ?
Alors, si vous voulez, la réforme ne règle pas le problème démographique, puisque qu'on soit en point ou qu'on soit en annuité, si on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. C'est la première chose, donc ça ne règle pas le problème qu'il faut remonter l'âge de départ à la retraite. Sur le plan financier, le problème c'est qu'avec tout ce qui a été promis, ça va coûter plus cher après qu'avant. Parce que le principe du point, par exemple en Suède, c'est que le point doit s'ajuster à la hausse ou à la baisse. Donc, comment est-ce que ça marche un régime par point ? On prend les rentrées de l'année, les cotisations, on prend le nombre de points, on divise ensuite ce qu'on a en cotisation par le nombre de points et on sert le point qui a été calculé. Ce qui veut dire que si, par exemple, on se retrouve en 2009 ou 2010, après grand choc sur le capitalisme, eh bien, ce qui s'est passé en Europe du Nord, alors c'est évidemment lissé, mais le point baisse. Or, on a dit que
Suède, le point a baissé. Oui. En 2009, après la crise financière, le point a baissé. Ça la grande inquiétude.
Alors, oui, mais on explique que, si vous voulez...
Sera sanctuarisé. C'est ce qu'a dit Bruno Le Maire.
Mais si on indexe le point, si on garantit des petites retraites à 1000 euros, ce qui en soi d'ailleurs n'est pas absurde, si on doit augmenter les enseignants pour pouvoir finalement faire la retraite par point, si on prend en compte la pénibilité, on a un système qui en réalité va coûter 15 ou 16% du PIB au lieu de 14% du PIB et on ne sait pas comment on va financer. Donc, on mécontente tout le monde. Tout le monde a peur et par ailleurs, on ne rajoute pas un euro dans le système. Donc les réformes précédentes, elles étaient assez injustes parce qu'elles ont surtout pesé sur le secteur privé, mais au moins à chaque fois, on avait ramené de l'argent dans le système. Et par ailleurs, dans la période présente, si vous voulez, normalement l'État doit être un réducteur d'incertitude. Là, on a démultiplié l'incertitude pour tout le monde sans apporter de solution.
Alors si, ils en apportent une de solution, puisqu'ils disent, et c'est un peu là où le bât blesse, c'est qu'ils disent d'un côté, on va faire une immense réforme systémique, une réforme équitable, une réforme de justice que vous critiquez ce matin, et en même temps ils disent oui mais on va faire aussi une réforme paramétrique, une petite réforme pour qu'on arrive à l'équilibre des comptes. Et là vous devriez être rassuré puisqu'on reparle de l'âge pivot à 64 ans pour combler, pour ramener de l'argent comme vous dites.
Mais c'est ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire que quel que soit, il faut être très clair, hein, qu'on soit en annuité, qu'on soit par points, c'est une chose qui est toute simple à comprendre. aujourd'hui, l'âge légal est à 62 ans et on part effectivement vers 61 ans. Ce qui est très heureux, c'est qu'un homme en France a une espérance de vie de 80 ans, une femme de 85 ans, et ça continue à augmenter légèrement. Donc, il n'y a pas de possibilité, avec un régime qui est déjà en déficit, 5 milliards cette année, ça sera entre 8 et 17 milliards en 2025. Donc, il n'est pas possible, quel que soit le système, de le faire vivre sans augmenter l'âge de départ à l'arbre.
Et donc, vous dites qu'il aurait dû faire sur les 64 ans, et puis c'est tout, c'est ça ?
Un autre argument, si vous voulez, de bon sens, c'est que si on regarde tous les autres pays développés, l'âge de départ à la retraite est entre 65 et 70 ans. Donc, comment est-ce que la France, qui est un pays qui, fort heureusement, a une espérance de vie qui est supérieure aux autres, comment est-ce qu'on pourrait partir à la retraite avant, alors qu'on a une espérance de vie qui est supérieure aux autres ?
L'âge pivot, ça vous
rassure ? La seule manière de faire, c'est d'effondrer le niveau des pensions, et c'est pas souhaitable.
L'âge pivot, ça vous rassure pas ? L'âge pivot à 64 ans, c'est pas une manière de dire qu'on va partir, qu'on allonge...
Non, mais l'âge pivot, on peut l'appeler l'âge pivot, mais là aussi, il faut dire la vérité. L'âge pivot, c'est la manière de remonter l'âge légal de départ à la retraite. On l'a appelé l'âge pivot parce qu'il y a une promesse du président de la République de ne pas augmenter. Mais
pour vous, c'est clair qu'on va passer à 64 ans et puis c'est tout. C'est ça ce que vous dites ce matin.
Je ne sais pas si c'est clair. Moi, ce que je crois, c'est que de temps en temps, il faut faire preuve aussi de pragmatisme et d'un principe de réalité. Là encore, on peut imaginer des systèmes parfaits et ensuite, il y a la réalité. Aujourd'hui, ce qui me paraît indispensable, c'est effectivement d'éviter qu'il y ait un déficit supplémentaire, mais on peut aussi travailler sur les 42 régimes pour réduire les inégalités. Prenez par exemple, il y a l'écart entre le secteur public et le secteur privé ou les régimes spéciaux. C'est vrai que les régimes spéciaux coûtent 5,5 milliards d'euros par an, ce qui est énorme pour le contribuable. On peut essayer de faire mieux, mais progressivement.
Nicolas Bavrez, vous dites qu'Emmanuel Macron s'est hollandisé, je vous cite. Vous écrivez, vous le comparez même à un petit gâteau bien connu des Bordelais, le cannelet. Faux dur dehors, vrai mou dedans. N'êtes-vous pas trop sévère, surtout quand on se souvient de ce que vous avez écrit la première année de mandat d'Emmanuel Macron ? Vous étiez totalement dithyrambique dans vos chroniques. Vous étiez amoureux, là, c'est dur.
Je crois que vous m'avez mal lu, puisque j'ai été le premier à critiquer, notamment en expliquant que la démission forcée du général de Villiers aurait des conséquences sérieuses sur l'ensemble du quinquennat. Et depuis, c'est exactement ce qui se passe, notamment sur les questions militaires. On a une situation malsaine, où du coup, les civils n'osent plus faire quoi que ce soit sur les militaires, parce qu'ils ont déjà... se sont mis dans un mauvais cas et où les militaires font du coup l'armée entre eux.
Faux dur dehors, vrai mou dedans.
Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Vous avez vu que le président de la République a fait des déclarations extrêmement dures. Aujourd'hui en Europe, il est tout seul. On s'est brouillé maintenant, y compris avec l'Allemagne, sur l'élargissement, sur le budget de l'euro, sur la Russie.
Sur l'OTAN. Déclaration sur l'OTAN. Alors, en état de mort cérébrale.
Par ailleurs, avec les alliés, on a réussi à aider Donald Trump qui veut diminuer son financement à l'OTAN. L'Allemagne va accroître son effort financier de défense, mais elle va le mettre dans l'OTAN au lieu de le mettre dans la défense européenne. Donc le résultat est pour le moins contrasté. Donc la refondation de l'Europe est totalement bloquée. On a une crise importante pour l'OTAN qui est importante, même si sur le fond il a raison. Oui,
c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'il dit pas tout haut ce que tout le monde pense tout bas ? Est-ce que son volontarisme à l'international
n'est pas... C'est très bien de dire les choses, mais c'est encore mieux d'avoir des solutions. Vous croyez vraiment que c'est...
La solution, c'est la défense européenne.
C'est la France qui va réussir, qui va réassurer avec son parapluie nucléaire, la sécurité des pays baltes et de la Pologne face à la Russie aujourd'hui.
Et pourquoi
parce que ça n'est tout simplement pas possible quand on regarde l'équilibre des forces. Donc si vous voulez, je crois que ce qui est très important, c'est que le fil de ce quinquennat, en fait, c'est un peu perdu. Le fil, c'était réformer le modèle économique et social français et refonder l'Europe. Aujourd'hui, on sanctuarise un certain nombre de... À travers, en tout cas, on n'a pas réussi à remettre en marche la production, ce qui était l'essentiel. Et par ailleurs, on a un pays qui est isolé en Europe et au sein des pays, et au sein de l'Occident et au sein de l'Alliance.
Nicolas Bavrez, sévère ce matin, merci et belle journée à vous.
Merci beaucoup.